Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invitée ce soir à 18h20, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, sera avec nous pour évoquer notamment ce rapport suite au féminicide de Mérignac qui pointe de nombreuses défaillances. On parlera aussi laïcité et réponse pénale pour ceux qui s'en prennent aux policiers et gendarmes. 19h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Et ce soir, une lueur d'espoir et une respiration bienvenue. Le long week-end de l'Ascension qui débute ce soir. Une respiration politique aussi peut-être pour l'exécutif. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. 19h20, dans le Club des idées, grand entretien exceptionnel ce soir avec Jean-Luc Mélenchon, candidat déclaré à l'élection présidentielle, qui publie « Député du peuple humain » où il raconte sa vision de l'écologie. Il viendra nous en parler et répondre à toutes les questions d'actualité. Voilà pour le programme. D'abord, toute l'info avec Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Julien.
18h, bienvenue à l'équipe d'Europe 1.
Ils nettoient les tables et les chaises, les restaurateurs se préparent à ressortir les terrasses. Le gouvernement propose ce soir une alternative à la jauge des 50%.
Mettre des séparations type plexiglas entre chaque table ou alors réduire la surface de sa terrasse de moitié. Explication dès le début de ce journal.
Le début du week-end de l'Ascension, beaucoup de monde dans les gares et sur la route. Les Français qui se sont rués également sur les hôtels où l'on affiche souvent complet.
Bruxelles a fait ses comptes, le bout du tunnel n'est plus très loin en termes économiques et la France pourrait tirer son épingle du jeu.
L'escalade continue entre Palestiniens et Israéliens. Les bombardements succèdent aux tirs de roquettes. Washington envoie ce soir un émissaire pour tenter de parvenir à la désescalade.
Le gouvernement donne son feu vert pour un concert test le 29 mai à l'Accor Hôtel Arena de Bercy. Ce sera Indochine. Angèle Châtelier nous dira tous les détails.
La Bourse de Paris termine en petite hausse, plus 0,19% à 6279 points.
Et puis la météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Alors comment ça s'annonce ce jeudi de l'Ascension ?
Eh bien ce jeudi férié pour certains s'annonce pluvieux, gris et bien frais sur presque tout le pays. Au bord de la Méditerranée, ce jeudi de l'Ascension, lui, sera ensoleillé. On ne sera pas tous logés à la même ancienne. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les restaurateurs avaient fini par ne plus très bien comprendre. Surtout, ils commençaient à s'arracher les cheveux avec cette histoire de terrasse. Pour les affaires qui ont de l'espace, pas de souci, mais pour les autres, c'était plus compliqué. Une jauge à 50%, d'accord, mais si la terrasse n'a que 5 tables.
Oui, les autres, c'était les petites terrasses, moins d'une dizaine de tables. Alors, comment ouvrir dans ces conditions ? C'est toute la question. Le gouvernement a donc mis tout cela en ordre, Clément Le Saffre, et cette fois, c'est clair, les cafetiers connaissent le protocole.
Oui, finalement, les cafés et restaurants avec une terrasse auront le choix le 19 mai. Première option, ils appliquent la jauge de 50%. Par exemple, sur une terrasse de 50 mètres carrés, ils pourront accueillir au maximum 25 clients. Une mesure qui arrange plutôt les établissements avec des grandes terrasses. Et pour les petits espaces, il y aura donc une autre option, à savoir ouvrir l'intégralité de la terrasse, mais en installant des séparations entre chaque table. Alors, ça peut être un panneau de plexiglas, une plante, un paravent ou un simple panneau de bois, à eux d'être imaginatifs. C'est en tout cas au restaurateur ou au cafetier de faire son propre choix. Il n'y a pas un nombre de tables maximum pour l'une ou l'autre des dispositions. Chacun fait en fonction de ce qu'il arrange, même si à Bercy, on précise que l'ouverture totale avec séparation est plutôt destinée aux terrasses en longueur, un type terrasse parisienne, ou bien aux extensions éphémères autorisées dans certaines villes.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Alors cette adaptation des jauges, cette possibilité de choisir était réclamée par les restaurateurs eux-mêmes. Ils sont satisfaits, mais prudents. Écoutez Laurent Fréchet, il est restaurateur à Paris et président de la branche nationale des restaurateurs du GNI.
Toute souplesse est bienvenue, parce que la règle de base est quand même extrêmement dure. 50% de capacité d'accueil, uniquement à l'extérieur, avec un effet météo complètement imprévisible. Je pense que ça va être la course à l'échalote pour se fournir en plexiglas dans les jours et les semaines qui viennent. Non, c'est pas aisé, parce que dans le texte effectivement du nouveau protocole, on dit par tout moyen, en fait. Alors, tout moyen, plexiglas, pourquoi pas, vous gardez un petit peu de transparence, une plante, c'est assez agréable, mais vous comprenez que un contreplaqué, par exemple, posé entre deux tables, c'est vrai que ça enlève un petit peu de convivialité.
Et certainement, Laurent Fréchet, restaurateur à Paris, répondait à Clément Le Saffre.
Alors, les restaurateurs qui sont dans les starting blocks pour la réouverture, évidemment, au Mont-Saint-Michel, les hôteliers sont prêts. Certains, d'ailleurs, ont déjà ouvert.
Et pour cause, de nombreux Français veulent profiter du week-end de l'Ascension pour prendre l'air. D'ailleurs, Bison Futé a classé la journée rouge en Île-de-France. Et on n'est pas loin, d'ailleurs, de battre des records au moment où je vous parle, puisqu'il y a plus de 440 km de bouchons cumulés sur les routes d'Île-de-France.
Et parmi ces automobilistes, il y en a sans doute qui ont pris la route du Mont-Saint-Michel. Donc, et là-bas aussi, les hôteliers font carton plein. Laurence Plancheneau travaille à l'Hôtel Vert, juste en face du monument.
Ce matin, vers 11h à peu près, on a eu nos premiers clients qui arrivaient d'Alsace. Et c'était les premiers clients de la saison. Ce soir, on est sur un taux d'occupation à peu près de l'ordre de 30%. Et à partir de demain, là, pour les deux prochaines nuits, on sera complet vendredi soir et samedi soir. C'est que de la joie de se dire qu'on sort de cette période qui a été douloureuse pour tout le monde. Et on est content aussi de se retrouver, de retravailler tous ensemble. Il y a à la fois cet aspect en interne, mais aussi effectivement d'accueillir les clients et de retrouver du contact physique, hein, tout simplement les sourires, parce que même à travers les masques, on le ressent. Donc c'est une très belle journée pour nous, c'est une très belle journée. Et puis on espère que ça va être le début d'une belle saison, surtout pour la suite.
Laurence, une employée de l'Hôtel Vert au Mont-Saint-Michel ou à côté du Mont-Saint-Michel, elle répondait à Alexandra Sirgan.
Alors on parle beaucoup de la reprise américaine, mais l'Europe, qui tardait à redémarrer, pourrait enfin voir le bout du tunnel.
Ah oui, la Commission européenne vient d'actualiser ses prévisions pour cette année et l'année prochaine, c'est-à-dire 2022. Isabelle Horry, Bruxelles est plus optimiste qu'en début d'année. Hein.
Oui, l'ombre du Covid commence à se retirer. C'est la phrase du jour du commissaire européen à l'économie. Plus de 4% de croissance attendue cette année et aussi l'an prochain dans la zone euro. La France est même au-dessus de la moyenne puisque Bruxelles nous voit à presque 6% en 2021. C'est plus que les prévisions du gouvernement. Certes, il va falloir attendre la fin de l'année pour revenir au niveau de richesse d'avant la pandémie. Mais cette fois, Bruxelles veut croire que les nuages se dissipent. D'abord parce que ça y est, la vaccination bat son plein en Europe. Presque 3 adultes sur 10 ont reçu une première dose. Les restrictions s'allègent un peu partout. Ensuite, les économistes de la Commission attendent un coup de fouet grâce au plan de relance européen. Il tarde à se déployer. Hein. On attend les premiers versements au plus tôt cet été. Mais ces milliards vont nous faire gagner plus d'un point de croissance. Enfin, il y a le reste du monde. En Chine et aux États-Unis, ça repart fort aussi. C'est bon pour nos exportations. Les énormes plans de soutien américains vont faire sentir leurs effets jusque chez nous.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et puis à propos de l'Europe, tiens justement, on apprend ce soir que le Parlement européen va retourner siéger à Strasbourg. Une séance plénière est programmée en juin, c'est une première depuis un an.
La France qui voit sa situation sanitaire s'améliorer, l'épidémie est en fort recul, indique le porte-parole du gouvernement qui parle d'amélioration forte. Le taux d'incidence par exemple chute de 20% en une semaine.
Oui, d'ailleurs la décrue est également plus nette dans les hôpitaux. 4743 patients se trouvaient hier dans les services de soins critiques. Elles étaient, ces personnes, plus de 5500 il y a une semaine.
Et puis on rappelle que les adultes à partir de 18 ans peuvent se faire vacciner à condition de saisir les créneaux disponibles la veille pour le lendemain.
Europe 1, Julien Bugier.
18h06, restez avec nous dans quelques secondes. La situation toujours très tendue, on en parlera dans la bande de Gaza entre Israéliens et Palestiniens.
Et puis Indochine en concert et en public à Paris.
A tout de suite. La suite du journal à 18h08 avec Christophe Lamar. Israël donc exclut toute trêve dans ses raids aériens sur la bande de Gaza.
Et Washington envoie un émissaire pour tenter de faire redescendre la pression sur place. Il appelle d'ailleurs Israël à faire tout son possible pour éviter les victimes civiles. Et il faut dire que les bombardements israéliens succèdent aux tirs de roquettes du Hamas. Le bilan humain est très lourd, environ une soixantaine de morts. Et ce soir, on craint plus que jamais l'escalade, Mathieu Bock.
Oui, Israël vient d'annoncer la mort d'un soldat tué par un missile anti-char qui a été tiré depuis la bande de Gaza. Le Hamas, de son côté, a confirmé que plusieurs de ses chefs avaient été tués. Le Shin Bet, le service de renseignement israélien, parle d'une dizaine de cadres du mouvement islamiste éliminés ces dernières heures. Escalade militaire donc, mais également escalade dans les mots. Le président israélien Reuven Rivlin a dénoncé, je cite, « un pogrom impardonnable », dit-il. Après des émeutes dans la ville de Lod, dans la banlieue de Tel Aviv, l'état d'urgence a été déclaré dans cette ville mixte où vivent 2/3 de juifs et 1/3 d'arabes. Si Israël veut une escalade, la résistance est prête. Et si Israël veut arrêter, nous sommes prêts aussi, a affirmé le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh. L'ONU dit craindre désormais une guerre à grande échelle et la procureure en chef de la Cour pénale internationale a même déclaré que des crimes pourraient avoir été commis.
Mathieu Bock, la France qui s'inquiète d'un embrasement de la bande de Gaza, tout doit être fait pour éviter un nouveau conflit, dit le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. À Paris, une centaine de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés tout à l'heure devant le Quai d'Orsay et l'Assemblée. Ahmed demande à la France et à l'Union européenne de s'impliquer davantage dans le conflit.
On est là pour dire au monde entier, ça suffit l'impunité d'Israël. Et nous demandons à Macron de reconnaître l'État palestinien parce qu'il a dit qu'il voulait une solution à deux États qui... Maintenant, aujourd'hui, on n'attend pas on veut des actes. On veut des actes, on veut que Macron, l'Union européenne, comme ça s'appelle, reconnaisse l'État palestinien, donné par l'ONU en 1948. On veut aussi que les accords soient respectés aussi entre l'Union européenne, l'État d'Israël, qui rompent les relations avec eux et qui nous envoient les casques bleus en Palestine pour libérer la Palestine. On sait, maintenant, on a la solution. Les actes, nous attendons maintenant, Inch'Allah.
Ahmed, un manifestant pro-palestinien au micro de Mathieu Bock. Une nouvelle manifestation est d'ailleurs prévue demain à Paris, place de la République, entre 14h et 18h.
Aux États-Unis, la crainte d'un emballement de l'économie après la publication des chiffres de l'inflation, plus 4,2% sur un an. Une épine dans le pied du président Joe Biden qui envisage un gigantesque plan de relance de près de 4 000 milliards de dollars.
Alors, on évoquait tout à l'heure la réouverture des terrasses. Évidemment, le 19 mai, on pourra aussi assister à des concerts et à Paris. Le groupe Indochine va inaugurer une série de concerts tests.
Alors, il y avait déjà eu à Liverpool et Barcelone des concerts. Les résultats ont été plutôt encourageants en termes de contamination. Pas ou très peu de cas de contamination. La France lance l'expérience à son tour à l'occasion du concert d'Indochine. Ce sera le 29 mai à Bercy. Mais Angèle Châtelier, tout cela va se faire selon un protocole très précis. Il s'agira de ne pas faire n'importe quoi.
Effectivement, parce que c'est un essai clinique, pas un concert à proprement parler. C'est d'ailleurs pour ça que l'APHP pilote ce projet. L'objectif, c'est de pouvoir reprendre le plus vite possible les spectacles en configuration debout. Il n'y en a pas eu depuis plus d'un an. Alors en tout, 7 500 personnes vont faire partie du projet. Toutes devront avoir entre 18 et 45 ans, n'avoir aucune comorbidité. 5 000 d'entre elles iront au concert le 29 mai, après avoir fait un test antigénique 72 heures avant, qui devra être négatif. Une fois sur place, elles pourront danser debout sur Indochine, qui jouera gratuitement pour l'occasion, mais porter un masque chirurgical tout le long du concert. Les 2 500 personnes restantes, elles, n'y assisteront pas, mais comme les autres, devront faire un autotest salivaire 7 jours après l'expérience. Car le but, c'est d'évaluer la propagation du virus lors d'un tel événement. À Barcelone, un concert test a eu lieu fin mars avec le même type de contraintes. Quelques semaines après, les organisateurs ont annoncé qu'il n'y avait aucun signe, je cite, de contagion après le concert. Alors si vous voulez faire partie de l'expérience en France, les inscriptions viennent d'être ouvertes et un site a été créé pour l'occasion, ambitionliveagain.org.
Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe et à tout à l'heure 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa Haddadi, presque toutes les régions sous la pluie demain. Oui, ça commence bien ce week-end prolongé.
Oui, il va être un petit peu compliqué ce week-end de l'Ascension en effet, Julien. Alors demain, de la Normandie à la frontière belge en passant par la région parisienne, il pleut toute la journée. C'est d'ailleurs en Normandie que les pluies seront les plus fortes. Des Ardennes jusqu'aux Alpes sur le nord-est. Nous avons un temps là aussi pluvieux, gris, avec une limite pluie-neige qui s'abaisse bien dans les Alpes puisque nous aurons des flocons dès 1200 mètres d'altitude. Il y a, pour faire simple, sur la façade atlantique, là aussi il va pleuvoir toute la journée, pour faire simple, il n'y a que sur le pourtour méditerranéen que la journée sera ensoleillé, au sec, avec attention en Corse, pas mal de gros coups de vent, le vent d'ouest souffle jusqu'à 90 km/h. Dans l'après-midi, sur la moitié nord, donc la Bretagne, le Nivernais, le nord de l'Auvergne et la Bourgogne, nous aurons des coups de tonnerre, les orages éclatent dans l'après-midi. Les températures comptaient 5 à 12 degrés le matin, c'est stationnaire, 5 à Gap, 6 à Nancy et Clermont-Ferrand, 9 pour Paris et Lyon, 11 à Marseille et 12 à Nice, et puis dans l'après-midi, ça baisse au nord, avec 13 degrés à Cherbourg, 15 à Bordeaux, Besançon et Paris, 16 pour Périgueux et Colmar, 17 à Lyon, 19 à Nice et 22 la maximale prévue pour Montpellier. Toujours de la douceur dans le sud.
Bien, mais de la pluie, c'est la mauvaise nouvelle. On verra comment évolue au fur et à mesure du week-end de l'Ascension. Merci Anissa, revenez nous voir avec des bonnes nouvelles s'il vous plaît.
Je vais essayer.
À 18h30.
Europe 1, Julien Bugy.
Allez, dans quelques secondes, une première pause. Notre invitée, la ministre déléguée à l'Intérieur, Marlène Schiappa. On évoquera avec elle les suites de cet abominable féminicide survenu à Mérignac. À tout de suite. Et ce soir, notre invitée à 18h16, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Bonsoir Marlène Schiappa.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors, je voudrais d'abord évidemment qu'on revienne sur ce drame terrible, cette horreur survenue à Mérignac, cette femme tuée, brûlée vive par son mari en pleine rue. La mission d'inspection, point d'étape, a été diligentée, a rendu ses premières conclusions et pointe une suite de défaillances, et c'est le moins qu'on puisse dire, on va en parler dans le détail. Une question peut-être d'abord personnel vous concernant. Est-ce que vous le vivez, vous, comme un échec, puisque vous aviez été, on s'en souvient, appelé au gouvernement pour prendre à bras-le-corps cette question de la protection des femmes et précisément éviter ce type de drame ?
Moi, vous savez, de par mon engagement, dès lors qu'on me fait part d'un féminicide, de violence conjugale, de harcèlement de rue, de viol, et ça arrive tous les jours, parce que je suis sollicitée tous les jours par des femmes qui vivent cela. Je le prends évidemment personnellement. Et quand je vois ces trois enfants qui sont maintenant orphelins de mère, évidemment, ça me déchire le cœur, c'est le sens de mon engagement.
Mais en ce qui concerne... Mais vous dites qu'on a raté quelque chose parce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées, mais ça ne va pas assez vite, visiblement.
Alors, d'abord, quand vous avez en face de vous un homme qui manifestement considère qu'il a droit de vie ou de mort sur sa femme ou sur son ex-femme, contre qui les condamnations ne font rien, qui lui tire des balles de fusil dans les deux genoux pour l'immobiliser, puis la brûle vive et brûle la maison... Je crois qu'on a là, c'est comme pour des terroristes, si vous voulez. On a des gens déterminés à tuer, des monstres, face auxquels toutes les mesures que l'on déploie, parfois, sont difficiles. Donc, un échec, pour vous répondre, chaque féminicide est un échec, est un féminicide de trop. Mais quand on regarde la situation maintenant et les mesures qui existent maintenant par rapport à ce qui existait avant notre arrivée, là, ça n'est pas un échec, dans la mesure où on a, au contraire, réussi à faire voter deux lois, 150 mesures et des dispositifs qui, tous les jours, sauvent la vie de femmes.
Oui, mais dans ce cas précis, Marlène Schiappa, cet homme avait été condamné pour violence. Il était d'ailleurs en sursis, en liberté surveillée d'une certaine manière. Et surtout, une plainte avait été déposée par sa femme le 15 mars. Rien n'a été fait. Il avait l'interdiction d'ailleurs d'entrer en contact avec elle. Comment se fait-il qu'il n'a pas été équipé, par exemple, d'un bracelet anti-rapprochement ? Comment se fait-il que la victime ne disposait pas d'un téléphone grave danger ?
C'est une excellente question.
On a le sentiment, d'ailleurs, c'est la conclusion de la commission avec ce point d'étape, qu'il y a eu des manquements et que la justice ne parvient pas, malgré les alertes, à protéger ces femmes.
Mais c'est une excellente question que vous posez. C'est la question que je pose et que nous posons avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Et c'est pour ça que dès que nous avons eu connaissance de ces faits, nous avons demandé des éléments et dès que nous avons vu qu'il y avait une plainte, nous avons diligenté immédiatement une inspection commune, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas chose courante, à trois ministres pour justement faire la lumière sur ces dysfonctionnements. Mais je vais vous dire, par exemple, en ce qui concerne la saisie des armes. Et là, c'est un sujet vraiment d'engagement profond pour moi, puisque vous savez que c'est moi qui,
il
dans le Grenelle...
Énorme, ce monsieur, d'ailleurs.
Voilà, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans le Grenelle des violences conjugales, c'est moi qui ai fait voter la saisie des armes suite à l'affaire de Julie Dwib, jeune femme qui avait été tuée à Île-Rousse par arme à feu. Parce qu'on dit souvent une femme morte sous les coups de son conjoint, mais en fait, le premier mode opératoire, c'est l'arme à feu. Donc on a fait voter la saisie des armes, et ensuite, avec Gérald Darmanin, on a pris une circulaire pour rendre obligatoire la saisie
mais
des armes.
Mais pourquoi n'était-il pas équipé d'un bracelet anti-rapprochement ?
Alors, je vais vous répondre sur les deux sujets. En ce qui concerne les armes, ce que nous dit a priori la procureure de la République, qui dirigeante cette enquête, c'est que la question a été posée à la femme de savoir est-ce que son mari avait une arme dans la grille d'évaluation du danger. Il n'avait pas d'arme au moment de la plainte. Il l'aurait acquise illégalement. Ensuite, voilà pourquoi il n'y a pas eu de saisie, nous dit les éléments de l'enquête. En ce qui concerne le bracelet, moi je vais vous dire les choses comme je les pense, les dispositifs sont sous-utilisés. Les bracelets anti-rapprochement que nous avons créés...
Il nous a été dit qu'à Bordeaux, il n'y avait pas de bracelet anti-rapprochement disponible au moment où ce monsieur est sorti de prison.
Il y a toujours des bracelets anti-rapprochement disponibles et de la même manière pour les téléphones grave danger. Moi, quand j'ai été nommée, j'entendais un double discours.
Donc c'est la justice qui a failli ou c'est les forces de l'ordre qui a failli ?
Alors, j'essaye de finir à vous expliquer justement comment ça se passe. J'avais sur le terrain des associations qui me disaient « on n'a pas assez de téléphones grave danger ». Et quand je regardais les lignes budgétaires du ministère de la Justice, on me disait « mais attendez, on en finance plein ». Et on s'est aperçu qu'il y avait deux tiers des téléphones grave danger dans des placards qui n'étaient pas assez attribués. Donc avec le ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur et moi-même, nous disons qu'il faut utiliser les dispositifs qui existent. C'est le sens des circulaires qui ont été prises. Cette mission, elle sera rendue publique le 10 juin quand elle sera terminée, cette mission d'inspection. Et nous prendrons toutes les décisions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus.
Alors, autre sujet, mais d'importance, et on le sait qui plus est aujourd'hui, la mort de ce brigadier, je dis aujourd'hui parce que c'était ses obsèques qui étaient ce matin dans l'intimité, mais il y a une foule immense qui est venue lui rendre un dernier hommage à Avignon. Jean Castex a donc annoncé de nouvelles mesures pour les crimes commis contre les forces de l'ordre après sa réunion avec les syndicats de policiers. On en a parlé ici même hier soir. Réduction de peine strictement limitée, peine de sûreté qui sera portée à 30 ans pour les meurtres trier de policiers, et puis le refus d'obtempérer notamment sera puni plus sévèrement. Les syndicats de la magistrature ont réagi et disent « la plupart des mesures qui sont annoncées existent déjà et elles sont effectives, elles sont appliquées ». Que leur répondez-vous ?
Moi, je ne crois pas qu'on puisse se contenter de la situation en état. C'est la même chose pour les féminicides, c'est la même chose pour les violences vis-à-vis des policiers.
Mais il y a déjà des peines très lourdes qui existent si on s'en prend à un membre des forces de l'ordre aujourd'hui.
On a là une question, et je relis vraiment les deux sujets, parce que pour moi, ils ne sont pas décorrélés. Un homme qui tue un policier qui vient lutter contre le trafic de drogue et un homme qui tue sa femme en pleine rue, vous avez là une forme de sentiment d'impunité. Et je pense que dans la peine, ce qui est important, c'est bien sûr sa gravité, mais c'est surtout sa certitude. Oui. Et je crois que les annonces du Premier ministre visent à lancer un message de fin d'impunité et à le mettre en œuvre concrètement.
Vous pensez vraiment, Marlène Schiappa, qu'un gamin de 19 ans qui se croit dans un jeu vidéo qui tire sur un policier, ça va le dissuader de le faire s'il sait qu'il prend 30 ans au lieu de prendre 20 ans?
Mais la
vous
question,
le pensez, ça?
Franchement, vous posez là... Très bonne question, et pour moi la seule question qui vaille. C'est-à-dire comment on fait et quels sont les instruments à la main des pouvoirs publics et singulièrement du gouvernement pour empêcher quelqu'un qui est déterminé à tuer de tuer. C'est la question contre le terrorisme, c'est la question sur les féminicides
et
c'est la question sur les violences vis-à-vis des violences conjugales. Et moi je crois que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais le gouvernement ne peut pas tout seul. On a besoin d'un discours de fermeté globale, c'est-à-dire en ce qui concerne les féminicides, de cesser de minimiser les violences conjugales comme on le fait encore trop souvent. Et en ce qui concerne les violences contre les policiers, cesser de les justifier. Oui. Vous avez des responsables politiques qui justifient encore les violences contre les policiers.
Les violences
et justifier les violences, ça commence par là. Quand vous avez des responsables politiques qui demandent l'abolition de la police, qui diffusent dans des manifestations avec des pancartes hostiles à la police, qui soutiennent les gens qui taguent ACAB, All Cops Are Bastards, en bas de chez les policiers. Vous savez, dans le Beauvau de la sécurité...
Vous pensez à qui, là, par exemple?
Je pense à beaucoup de responsables politiques qui se reconnaîtront. Il y en a plein. Honnêtement, à la France Insoumise, sur Europe Écologie Les Verts, il y a hélas pléthore de responsables politiques qui tiennent ce discours irresponsable anti-police.
Alors, je vous pose la question parce que Emmanuel Macron, il y a quelques années, quand il était candidat à l'élection présidentielle, il critiquait justement ce qu'il appelait la tyrannie des événements et la modification incessante, il faisait référence à Nicolas Sarkozy, de notre droit en fonction de l'actualité des drames. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il est rattrapé par un principe de réalité. On est obligé de réagir après un drame. C'est la politique.
Bien sûr, mais on ne réagit pas seulement après le drame. Vous savez, en ce qui concerne Mérignac, on a agi avant. Quand j'étais auprès d'Edouard Philippe, nous avons lancé ce Grenelle des violences
conjugales. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Un drame, une loi.
Mais là, oui, mais là, je vous explique que c'est l'inverse. En fait, on a pris deux lois contre les violences conjugales avant, justement, ce drame de Mérignac. Et justement, on est pressé par l'opinion de nous dire qu'est-ce qu'on va faire de plus. Eh bien, moi, je crois qu'il faut appliquer les lois et appliquer les dispositifs existants. Ils ont été votés, ils ont été financés et maintenant il faut les appliquer.
Bien. Un petit mot de politique, Marlène Schiappa. D'abord, ce qui se passe dans la région PACA, puisqu'un sondage donne désormais le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani, devant dans tous les cas de figure. Les manœuvres de rapprochement LR-LREM, qui avaient quand même été annoncées par Jean Castex, se sont soldées par un échec, il n'y a pas d'autre mot. Tout cela donne quand même un sentiment de tambouille qui plus est contre-productive. Est-ce que vous dites, il faut le dire quand on rate, et là on a raté?
Écoutez, moi je suis tête de liste à Paris pour la liste de Laurent Saint-Martin en Ile-de-France, et chez nous il n'y a pas de tambouille, il n'y a pas d'accord qui soit...
Vous bottez en touche.
Non, je ne botte pas du tout en touche, c'est ce qui est important. Nous portons avec Laurent Saint-Martin les couleurs de la majorité présidentielle. Et nous portons notre projet, une vision innovante pour la région Ile-de-France, pour qu'elle ne fasse pas que de la gestion. Vous savez, la région sortante, elle a fait un peu la politique du DAB, du distributeur automatique de billets. Je donne 200 000 euros là, 50 euros là, je finance tel truc. Voilà, c'est pas ça pour nous une vision, une politique publique. Pour nous, elle a une vraie vision sur la formation, sur le soutien aux entreprises, à la culture et la sécurité.
Ça puisse donner un sentiment de flou aux électeurs, notamment, parce que ce sont deux régions différentes, mais ce sont deux partis politiques très différents. Donc ici, en Ile-de-France, vous luttez contre les Républicains, et puis en région PACA, comme de par hasard, diraient certains, vous vous alliez avec les Républicains.
Alors, moi,
où est
c'est
la cohérence?
Le sens de notre candidature, ce n'est pas de lutter contre qui que ce soit, c'est simplement qu'avec Emmanuel Macron, en 2017, nous avons recomposé le paysage politique et nous avons voulu proposer quelque chose autour d'Emmanuel Macron. Et c'est dans cette continuité que Laurent Saint-Martin et moi, à Paris, nous nous positionnons.
Les ministres et secrétaires d'État qui sont engagés dans la campagne des régionales, en cas de défaite, ils doivent démissionner ou pas? Quelle est la ligne du parti?
Alors, je ne compose pas le gouvernement. Ce que je peux vous dire, c'est que nous continuons à faire cette campagne. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait, par exemple, une tête de liste d'Audrey Pulvar qui se désistait et qui, du coup, démissionnait lui-même avant l'élection. Moi, j'invite tous les électeurs humanistes, tous les électeurs qui peut-être ont voté pour Anne Hidalgo aux élections municipales, à voter pour la liste que je conduis à Paris, parce que nous sommes clairs sur les valeurs. Nous sommes une liste de progrès, humaniste et qui porte les valeurs de la République.
Je vous pose la question autrement. Si vous échouez, est-ce que vous estimez qu'il faut que vous démissionniez?
Mais moi, comme je vous l'ai dit, il ne m'appartient pas de composer le gouvernement. Nous sommes plusieurs ministres qui sommes candidats. Éric Dupond-Moretti, vous l'avez mentionné, Emmanuel Wargon, Amélie de Montchalin dans l'Essonne,
et donc nous
continuons. Jusqu'à présent, nous sommes dans la Constitution, ça n'est pas Marlène Schiappa qui forme le gouvernement.
Il pourrait y avoir une ligne de parti ou une ligne qui a été édictée par le président et le chef de gouvernement.
J'en ai pas connaissance et je n'ai pas demandé de garantie avant d'être candidate. Moi, je ne suis pas une planquée, je suis quelqu'un qui prend mon risque, qui défend les valeurs. La majorité présidentielle et En Marche, mon mouvement, a toujours pu compter sur moi depuis le premier jour. Et je suis encore là pour porter les couleurs à Paris, avec toute la liste rassemblée, le MoDem, Agir, Territoire de Progrès, En Commun, et les citoyens parisiennes et parisiens, je l'espère.
Bah, c'est un bon trac de campagne.
Bah, tant mieux.
Merci Marlène Schiappa d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, le rappel des titres et les polémiques du jour avec les grandes voix. On évoquera notamment la situation au PACA et puis la fin du corps préfectoral. À tout de suite. Le rappel des titres, 18h30 avec Christophe Lamarre.
L'amélioration sanitaire se confirme, elle est même forte, affirme le porte-parole du gouvernement. Le taux d'incidence est inférieur à 200 sur la majorité du territoire, en baisse de 20% sur une semaine, selon Gabriel Attal. La décrue est entamée dans les hôpitaux, elle est même qualifiée d'importante par l'exécutif. 4743 malades se trouvaient hier dans les services de soins critiques. Ils étaient plus de 5500 il y a une semaine. Washington envoie un émissaire pour tenter de faire redescendre la tension entre Israéliens et Palestiniens. En attendant, l'escalade se poursuit. On déplore plus de 60 morts ce soir, dont une majorité à Gaza. Et puis la Coupe de France de football avec une première demi-finale ce soir à 21h. Montpellier reçoit le PSG tenant du titre. Demain, les amateurs de rugby Valière accueilleront Monaco.
Merci Christophe. À tout à l'heure, 19h, pour un point complet sur l'info. La météo, Anissa Dadi, des giboulées pour l'ascension. Ben voilà le programme qui n'est pas franchement réjouissant.
Ben d'habitude, c'est en mars. Là, ce sera en mai. Effectivement, le temps est agité. Demain, assez frais. Sur les trois quarts de la France, les averses sont très fréquentes. Dans l'après-midi, sur la moitié nord, les pluies deviendront même orageuses. Il n'y a finalement que dans le sud, en Provence, en Corse et sur la Côte d'Azur, que le soleil brille. Si vous n'habitez pas dans ces régions, demain, c'est parapluie obligatoire. Les températures, 5 à 12 degrés le matin, c'est stationnaire. 5 pour Alençon, 8 à Toulouse et Grenoble, 9 à Paris et 12 à Nice. Et puis dans l'après-midi, 13 à 22 degrés, 13 pour Aurillac, 15 à Paris et 22 la maximale pour Montpellier.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 19h.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Louis Dragnel. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
Chef adjoint du service politique d'Europe 1 avec Sophie Dravinel. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Julien.
Grand reporter politique au Figaro et avec Henri Vernet qui est en train de nous rejoindre, rédacteur en chef au Parisien. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, que l'on commence par l'ascension. Pourquoi ? Eh bien parce que les Français vont profiter d'un long week-end de 4 jours. Pour ceux qui ont évidemment la chance de faire le pont, de nombreux bouchons sont attendus, des trains, des cars qui sont pris d'assaut. Ça rappelle un peu la vie d'avant, même si Jean Castex, hier aux 20h de France 2, a tenu à rappeler les consignes sanitaires.
C'est le pont de l'ascension. On reste encore prudent, on respecte bien les gestes barrières et les règles applicables, le couvre-feu, les limites de regroupement sur l'espace public, tout ce que vous savez. Mais n'hésitez pas à aller vous faire vacciner dans un centre de vaccination à propos de votre lieu de villégiature.
Alors, il y a un enjeu politique, évidemment, derrière tout ça, Sophie Dravinel. Mais d'abord, c'est une bonne nouvelle quand même. Il faut les saisir, les bonnes nouvelles, en ce moment.
Oui, 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 il faut absolument
premier
les saisir.
Premier espace de liberté post-déconfinement.
Oui, liberté limitée cependant, parce que même s'il faut s'en réjouir, etc., la météo n'est pas complètement, ou du moins pas sur toute la France, de tout cœur avec nous. Mais il y a aussi cette prudence qui vient tout petit peu encadrer, limiter, voire... ça va sans doute faire d'ailleurs grincer des dents, ce couvre-feu qui reste et qui provoque dans les grandes zones urbaines de France, à Paris en particulier, des embouteillages absolument monstres. Et donc évidemment, de nouveau, le non-respect par beaucoup de franciliens, un peu obligatoirement.
Oui. C'est vrai que le couvre-feu, on ne va pas se mentir, est de moins en moins respecté dans les grandes villes, parce que c'est le début de l'été, les jours s'allongent, et puis le gouvernement a envoyé le signal que c'était le déconfinement qui s'amorçait, donc on a déjà un peu la tête ailleurs. Henri Vernet, c'est un enjeu politique aussi qu'il y a derrière ce premier week-end de l'ascension, mine de rien, parce que il ne s'agirait pas que derrière l'épidémie reprenne, malgré la vaccination évidemment qui s'accélère.
Complètement, c'est un enjeu politique et qui a valeur de test, puisque le gouvernement et notamment Castex l'a bien expliqué, de toute façon il y aura des possibilités de, non pas de retour en arrière, mais en tout cas de freinage, et typiquement ce premier week-end, vous savez, ça fait un peu penser à la période qui avait suivi le premier confinement, donc le tout début du premier déconfinement, qui était d'ailleurs déjà dans les mains de Castex, puisqu'à l'époque il était le monsieur des confinements du gouvernement, et à l'époque justement qu'avait-on constaté ? Eh bien un relâchement beaucoup trop rapide. Et là, ce qui est intéressant, c'est donc que les freins, les cliquets de retour, en quelque sorte, ont déjà été indiqués. Ils dépendront de l'indice de circulation, de l'épidémie, des taux de ralentissement. Mais il est également, c'est intéressant de constater, Jean Castex était en interview dans notre journal, dans Le Parisien, mardi, et il disait bien, il appelait très clairement aussi à la responsabilité de ses concitoyens, de chacun de ses compatriotes. Et c'est une façon de dire attention, il y a ce premier week-end, mais voilà, soyez tous vigilants.
Ça va être dur, pardon pour cette expression, de tenir la bride des Français aussi. Parce que le 19 mai, c'est les terrasses qui rouvrent à nouveau, c'est les lieux publics, c'est les petits commerces et grands commerces d'ailleurs qui ne sont pas essentiels pour acheter des vêtements, pour acheter tout un tas de choses. C'est la vie qui reprend. Et je ne sais pas si vous avez vu ces images en Espagne, des scènes de liesse où on célébrait le déconfinement dans les rues qui ont choqué l'opinion publique. Ça a fait débat, ça a fait polémique. On peut peut-être assister au même genre de scène aussi chez nous en France, ce qui sera peut-être un sujet politique, Louis Dragnel.
Alors bien sûr, oui. Et puis c'est des images déjà réjouissantes. Il faut aussi se réjouir du fait qu'enfin on puisse se libérer, enfin on puisse retrouver un peu la vie normale. Quand même, la différence par rapport aux précédentes périodes, c'est que là, pour le coup, on a la vaccination. Et donc, on a quand même franchi un pas extrêmement important au-delà des questions politiques fait que justement la société est quand même un peu mieux immunisée. Donc il y a des risques de retour en arrière qui sont quand même un peu plus faible que par le passé. Mais ensuite, écoutez, les gens vont se réjouir. Et puis le gouvernement, globalement, avec les prochaines étapes qui sont en train de se dérouler de libération du pays, tend vers cet horizon, justement. Donc les Français aussi comprennent que le gouvernement est en train d'accompagner ce retour à la vie normale, en train de desserrer la bride, et c'est tant mieux.
Henri Vernet.
Alors c'est vrai que vous avez raison, il y a cette sécurité de vaccination, sauf que là, on retrouve un petit peu les empêcheurs de déconfiner en rond, hein, en tout cas en fait, que sont en l'occurrence le professeur Delfrécy, président du conseil de scientifique, qui dit bien, oui, mais pour que cet élément de sécurité marche complètement, il faudrait qu'on soit d'abord à 35 millions de pré-vaccinés, enfin de primo-vaccinés qui ont au moins reçu la première dose, et on n'en est pas là, et c'est là, lui, là on aurait plus ouvrir les vannes. Ouais. Mais ils mettent cet avertissement.
Alors, on rappelle les chiffres quand même, les indicateurs. On est quasiment à 18 millions de premières doses sur la vaccination et à peu près la moitié pour la seconde dose. Ça progresse quand même très très vite. D'ailleurs, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a insisté, pas de jour férié pour la vaccination. On pourra se faire vacciner sur son lieu de week-end, si on part en week-end, et ça va continuer samedi, dimanche, jour férié inclus. Louis Dragnel.
Bien sûr, non, mais et tout ça, ça va dans le bon sens, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ces questions de gestion de la pénurie. Alors, bien sûr qu'il y a encore des endroits où ça bloque, mais globalement, on va quand même vers une situation qui est en train de se normaliser, où tout le monde peut accéder à sa dose de vaccination. Je reviens simplement sur ce que vous disiez sur les prudences du professeur Delfrécy, donc qui est le président du conseil scientifique, qui a pour objet de conseiller le gouvernement en matière sanitaire. Et si le professeur Delfrécy met en garde de cette manière-là, c'est aussi pour une autre raison. Si l'épidémie repart, si on découvre la progression de nouveaux variants, eh bien, tout l'enjeu, c'est de dire ben, on avait prévenu, on avait mis en garde.
Oui.
Et donc, pour le gouvernement et pour le conseil scientifique, l'idée, c'est vraiment de dire voilà, on a bien sûr desserré la bride, mais à aucun moment on a été déraisonnable. Voilà, on était en connaissance.
Il y a un game changer, comme on dit, c'est que le taux d'immunité collective avait été fixé entre 55 et 60%. Avec les variants, comme ils sont plus contaminants, maintenant il est fixé à 80%.
Donc ça veut dire d'où les 35 millions.
Ça va être compliqué d'être totalement immunisé avant l'été pour atteindre ces 35
millions
de vaccinés.
C'est ça, d'où un léger risque politique qui est pris, une avancée. Et vous avez raison, bien sûr que c'est ceinture et bretelle à la fois du côté des scientifiques et des politiques. Néanmoins, la décision et donc l'engagement politique, il vient du pouvoir, il vient du gouvernement. Et d'ailleurs, qui aurait à répondre si jamais, on l'a vu d'ailleurs, il y a eu des actions en justice à l'encontre d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran, c'est bien le gouvernement. Oui. Donc c'est à lui de prendre ses décisions en toute connaissance
bien.
De cause.
On marque une première pause, on se retrouve dans un instant. On va parler politique. Thierry Mariani devant tous les autres partis en PACA. Faut-il y voir la conséquence de cette tentative d'alliance entre la majorité et les Républicains ? On en parle après la pause. À tout de suite. Les grandes voix suite avec toujours Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, Henri Vernet, rédacteur en chef au Parisien, et Sophie Dravinel, grand reporter politique au Figaro. Alors, c'est un sondage qui fait du bruit concernant les élections régionales en PACA. Thierry Mariani, soutenu par le Rassemblement National, creuse l'écart au premier tour dans tous les cas de figure, avec ou sans liste de la majorité présidentielle. Et au second tour, il l'emporterait même d'une courte tête avec 41% des suffrages. Réaction ce matin du principal intéressé.
Pour moi, qu'est-ce que montre ce sondage ? Ce sondage montre d'abord que les électeurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont compris que depuis quelques semaines, les états-majors d'En Marche et des Républicains essayent de trouver une combinaison pour éviter une défaite. Et puis surtout, les électeurs de la droite républicaine ont compris que voter Renaud Muselier, eh bien, s'il est élu, ce sera à l'Élysée qu'on sabrera le champagne.
Alors, Sophie Dravinel, au-delà de cette déclaration de Thierry Mariani, c'est l'échec total. C'est l'échec total. Ça avait quand même été annoncé par Jean Castex, cette fusion des listes avec les Républicains et la majorité présidentielle. Et puis patatras, on est revenu au point de départ. Et au final, eh ben, ça profite à celui contre qui s'adressait cette alliance.
Oui, oui, on se demande. C'était vraiment... ils se voulaient des grands experts et ils sont gribouillés. Je crois que c'est le terme qu'avait utilisé chez nous en édito Vincent Trémollet ce matin. Quiproquo, c'est un bazar, et pour les électeurs, ça doit être absolument épouvantable de savoir comment se retrouver dans ces listes, dans cette liste. Enfin, c'est incompréhensible pour eux. Surtout qu'on apprend ce matin ce qui était pressenti hier, c'est-à-dire que Renaud Muselier a annoncé qu'il y aurait une alliance avec La République En Marche, mais sans ministre, c'est-à-dire quid de Sophie Cluzel quand même. Donc il y a quelque chose qui est... j'en discutais hier avec Jean-Laurent Félicia, qui est la tête de liste écologiste, qui draine à peu près l'Union des Gauches derrière lui, et qui disait « mais que vont faire ?» les électeurs LR qui veulent être clairs idéologiquement, ils vont aller voter pour un ancien RPR, pour Thierry Mariani, qui évidemment, comme il le disait, se lèche les babines. La situation est claire ce soir à ce niveau-là.
Henri Vernet, échec total de la stratégie de l'exécutif, qui avait été vraisemblablement validée par le président de la République.
Mais justement, et c'est bien ça le problème, parce que quelle était cette stratégie au départ? Parce que localement, sur un plan purement sur des enjeux régionaux, comme l'avait dit d'ailleurs Renaud Muselier et Sophie Cluzel et ses camarades LREM sur le terrain, pourquoi pas? Je veux dire, c'était pas aberrant. C'était assez curieux de faire, disons, une alliance qui normalement aurait très bien pu attendre le soir du premier tour et se dessiner pour le second tour. En plus, il y aurait eu un effet dynamique qui, là, ne jouera pas par définition. Mais pourquoi pas? C'est vrai qu'on se rappelle qu'à l'origine de ça, il y avait un petit peu Castaner qui était 5 ans auparavant. C'était lui qui conduisait la gauche, qui s'est retiré au profit d'Estrosi face à Manuel Maréchal Le Pen. Donc, c'est lui qui avait sonné l'alarme. Et donc, pourquoi pas cette alliance dès le premier tour? Mais enfin, déjà, c'était bancal.
Mais
donc,
la stratégie.
Non, ça marchera pas. Mais alors, quelle est la stratégie? En tout cas, pas avec elle, ça marchera avec quelques élus, quelques présents LREM sur les listes. Mais la stratégie, et pourquoi est-ce que ça fait autant pchit, et pourquoi c'est un tel fiasco, c'est qu'en réalité, on voit bien que la stratégie des états-majors, donc portée par Jean Castex, mais conçue bien évidemment par les conseillers du président, Thierry Soler, Emmanuel Macron sans doute lui-même, c'était de viser
Thierry
2022.
Thierry Soler au moins au début.
Absolument. Et donc eux, ils visaient 2022, tout le calcul était là, c'est-à-dire que là, on est en train d'en faire un laboratoire pour la présidentielle, en se disant, mais on sait très bien qu'il y a une partie des députés LR qui, venant venir peut-être un fiasco à droite, eh bien, seraient tentés de se rallier en vue de 2022,
Il y a quand même un gain dans cette opération qui, au final, est opération nulle. Enfin, on verra le résultat d'ailleurs, parce que si c'est Thierry Mariani qui gagne, c'est opération totalement ratée. C'est que ça a déstructuré d'une certaine manière les Républicains. Éric Ciotti d'un côté, et puis le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a quitté les Républicains. Hubert Falco qui a quitté aussi les Républicains. Donc ça fait apparaître une ligne de fracture au sein des Républicains.
Mais quel est le but? C'est de battre les Républicains, de les écarter de la vie publique, ou c'est de contenir l'avancée du Front National, du Rassemblement National? La question, elle est là.
Il y avait un peu les deux dans cette stratégie.
Bien sûr, on voit bien dans les Hauts-de-France d'ailleurs.
Oui, absolument, dans les Hauts-de-France, c'est très clair. Si je peux me permettre juste un mot, parce que effectivement. Éric Dupond-Moretti, en grignotant des voix à Xavier Bertrand, ne va sans doute pas l'emporter. La détestation est tellement forte contre le gouvernement, mais en tout cas, clairement, affaiblir le candidat des Républicains.
Louis Dragnel.
Si on revient quand même aussi au postulat de départ, ce n'est pas pour défendre le gouvernement ou La République En Marche, mais La République En Marche avait quand même initialement très peu de chances de l'emporter nulle part d'ailleurs. Et particulièrement en PACA. Ce qu'ils ont essayé de faire, et globalement, ça crée quand même un doute chez les électeurs de droite, puisqu'il y a manifestement, en tout cas, ça c'est ce qu'essaye de créer Emmanuel Macron, montrer qu'en fait il y a un accord possible, il y a une entente possible en fait entre certains leaders de la droite, Renaud Muselier, le maire de Toulon, Hubert Falco, et La République En Marche. Donc l'impact dans l'opinion, il y a quand même ça qu'on retient, et ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi, dans les enquêtes d'opinion, voilà quel est l'impact sur les électeurs de droite à la suite justement de cette manœuvre politique. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est quand même assez importante, c'est que ça montre bien vraiment la stratégie d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Ça montre qu'il ne peut pas gagner sans les Républicains et que clairement, il va faire sa campagne présidentielle à droite et pas à gauche. Ensuite, on voit bien quand même, in fine, l'échec en tout cas du premier match qu'on voit à l'occasion de ces élections régionales, avec La République En Marche qui globalement sort un peu ridiculisé, très ridiculisé quand même, de cette opération.
Un dernier mot, Henri Vernet, parce qu'il y a quand même un autre élément qui va être important à suivre, c'est le plafond de verre de Marine Le Pen. Une victoire au régional, en région PACA pour Thierry Mariani, c'est un nouvel élan aussi pour le Rassemblement national.
Ça marque les esprits, c'est bien évident. En 2015, c'est ce qu'ils avaient manqué. Il y avait des fronts républicains contre eux, et donc ça avait manqué. Mais il est clair que ça aurait créé une dynamique très importante pour 2017. Oui. Et là, c'est ce qui risque de se produire cette fois.
On parle beaucoup en ce moment de la fin du front républicain contre le Rassemblement national. C'est un premier test local, en somme.
Mais complètement, complètement. Et on verra. Et je pense qu'il devra, d'ailleurs, la question se posera peut-être dans deux endroits, non seulement au PACA, mais peut-être aussi en Hauts-de-France, où le front républicain pourrait être tout à fait utile. Mais juste un dernier mot, c'est non seulement, comme vous dites, la possible fin de ce plafond de verre, mais c'est aussi ce qu'on voit, c'est le gain terrible des thèses sur lesquelles prospère le Rassemblement national. C'est-à-dire que nous, on avait fait un sondage en Île-de-France, oui. Et là, on voit bien avec le sondage Ipsos, même opérateur, Ipsos en PACA, on voit bien que les thèmes de prédilection pour les électeurs, ce sont la sécurité et l'immigration. Deux thèmes qui sont totalement travaillés par Mariani en PACA et par Marine Le Pen au niveau national. Donc c'est aussi tout simplement la montée de ces préoccupations, la montée de ces désirs qui fera peut-être crever ce plafond.
Bien, une nouvelle pause et on parle dans un instant de la disparition du corps préfectoral. Qu'est-ce que ça va changer ? Réponse avec les débatteurs. À tout de suite. La suite du débat des grandes voix avec toujours Louis Dragnel, Henri Vernet du Parisien et Sophie Dravinel du journal Le Figaro. Alors l'exécutif poursuit, oui, sa réforme de la haute fonction publique. On va en dire un mot après l'ENA. Ce sont les préfets qui pourraient disparaître, mais pas la fonction. Selon Matignon, cette réforme doit permettre de mieux recruter, former et accompagner les cadres supérieurs de l'État. On écoute la réaction, pas franchement convaincue, de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, au micro d'Alexis de La Fontaine.
J'ai travaillé avec de nombreux préfets. Ces préfets-là, pour moi, ils incarnent l'État. L'État déconcentré, pas l'État parisien. Vouloir supprimer le corps préfectoral, c'est déconstruire ce qui marche encore au niveau de l'État dans les territoires.
Alors, à quoi ça va servir de supprimer le corps préfectoral, la haute fonction publique d'une certaine manière? C'est la suite de la réforme, évidemment, mais à quoi ça va servir la disparition du corps préfectoral? Qui veut répondre?
Alors, la première chose, c'est donc le gouvernement veut s'attaquer, en fait, c'est une manière de s'attaquer à l'État profond. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron considère que les préfets, comme ils ont un corps qui, entre guillemets, les protège à vie, mais qui les protège, en fait, pour ma part, je pense, pour de bonnes raisons, parce que c'est un métier très difficile, on en reparlera tout à l'heure. Eh bien, Emmanuel Macron, en fait, voilà, veut casser un peu ça pour, entre guillemets, oxygéner le corps et faire des nominations un peu comme il l'entend, avec des profils de gens qui ont fait autre chose que le corps préfectoral. Mais en fait, l'énorme fragilité quand même dans cette volonté d'Emmanuel Macron, c'est qu'il oublie en fait que être préfet, c'est un métier qui s'apprend pas à pas. On commence par être sous-préfet, puis on est préfet d'un petit département, un moyen, un gros, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est seule l'expérience qui permet en fait de progresser et d'acquérir cette expérience-là.
En même temps, il y a une cohérence, Sophie Dravinel, parce que Emmanuel Macron avait fait campagne aussi sur le fait de rendre plus malléable, plus réactive la France et de désadministrer un peu, parce que c'est vrai que ça a été compliqué là pendant la crise sanitaire, on s'en est aperçu, la suradministration française.
Absolument, mais justement, et il veut ouvrir tout ça, et il précise bien que le métier de préfet ne va pas disparaître. Mais ce qui est paradoxal, c'est que derrière sans doute une bonne volonté et la nécessité, parce que je crois que ça, tout le monde en convient, la haute fonction publique en France doit être réformée, il y a cette erreur, à mon avis, de jugement politique. Parce que justement, et vous le dites très à juste titre, pendant la crise, on a vu des dysfonctionnements colossaux, et je parle en particulier dans l'administration de la santé, parce que chez les préfets, paradoxalement, c'est peut-être là que ça s'est le mieux passé. Et en particulier avec les maires, localement, c'est là où l'État a pu être préservé dans sa fonction de rapport avec les citoyens et de rapport avec les élus, et les préfets ont sans doute été le seul corps avec qui les relations se sont bien passées.
C'est juste... Henri Vernet, d'abord, réaction, bonne ou mauvaise mesure?
Alors, bon, fondamentalement, c'est ce que vous disiez, il y a du bon dans cette réforme de la haute fonction publique. L'idée de la fluidifier, de faciliter les carrières et surtout les allées-venues entre différentes fonctions, voire entre privé et public, comme c'est le cas dans beaucoup de démocraties modernes. Ça, fondamentalement, je trouve que c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont avait parlé le candidat Macron, y compris quand il était ministre, quand il était à Bercy. Donc ça, pourquoi pas. Après, ce qui est gênant, quand même, il y a deux points qui sont gênants, je trouve, dans cette réforme, c'est que d'une part, c'est quand même la suppression de l'ENA et maintenant cela.
Enfin, plutôt d'abord, c'est une réforme que
personne
ne
lui a demandé.
Le classement de sortie est conservé,
oui,
ce n'est pas vraiment
façon,
une suppression
voilà,
de l'ENA.
De toute façon, ce n'est qu'une demi-réforme. Mais surtout, c'est quelque chose que personne n'a demandé. En gros, ça avait été conçu comme une réponse aux Gilets jaunes, mais non, les Gilets jaunes s'en fichent des énarques et
des préfets. Non, ils ne s'en fichent pas. C'est très symbolique.
Non,
attendez, Henri Vernet,
ils ne se fichent pas de leur action et de leur travers. Mais le deuxième point qui me gêne, c'est que vers quoi veut-on aller ? C'est-à-dire que, parce que Sarkozy aussi avait eu cette idée d'aller vers un système un peu à l'américaine où tous les grands commis de l'État, en fait, sont des gens qui sont politisés finalement parce qu'ils sont nommés. Vous savez, c'est le grand brainwashing qu'il y a au début de chaque présidence. Mais ça veut dire que, quelque part, vous nommez des gens qui sont à votre main, donc à la main politique. Et si c'est le genre de modèle vers lequel on veut aller, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut afficher la couleur.
Louis Dragnel.
Moi, en fait, je suis favorable à ce qu'on le fasse pour tous les corps de l'État, sauf celui-là. En fait, pourquoi ? Parce que c'est le corps qui incarne la continuité de l'État. Et ça, ça paraît des mots, mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est pour cette raison, et vous l'avez très justement rappelé, que l'État tient et que quand il est très fragilisé, eh bien, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste que les préfets. Deux exemples. Au moment de la crise des Gilets jaunes, qui a sauvé Emmanuel Macron, même lui, physiquement.
Au puits en volet.
Ce sont les préfets qui a tenu l'ordre public. Ce sont les préfets. Et on a bien vu à quel point c'était complexe et à quel point vous nommez quelqu'un qui a fait du consulting dans un grand cabinet de conseil, vous le nommez préfet, bah, je ne lui donne pas cher de sa peau pour sa survie. Qui, pendant la crise sanitaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, pourquoi les préfets sont intervenus dans un deuxième temps ? Parce que, justement, les ARS étaient défaillantes. On a méprisé les préfets dans un premier temps.
Et en même temps, quand on veut réformer la fonction publique, il faut bien commencer
bien
par
quelque part. Bien sûr, mais je tiens juste à donner un chiffre. Vous savez que les deux tiers du corps préfectoral, pour les deux tiers des personnes qui travaillent dans ce corps-là, qui sont préfets, sous-préfets, ils ne sont pas issus de l'ENA. En fait, c'est un corps qui est déjà très diversifié, très oxygéné. Et puis, une dernière chose, c'est que si Emmanuel Macron veut changer les nominations de préfets, ça ne dépend que de lui. En fait, c'est lui qui décide de les nommer en Conseil des ministres. Donc, chaque semaine, s'il veut, il peut choisir qui il veut pour nommer les préfets. Et je termine simplement par là. Je trouve ça un peu cocasse, en fait, quelques jours après avoir célébré Napoléon.
C'est ce que j'allais vous dire.
Qui, précisément, en fait, Napoléon qui a eu le génie de créer...
La fonction de préfet napoléonienne.
En fait, la structuration de l'État, l'organisation des départements et mettre à la tête de ces départements des représentants du gouvernement que sont les préfets, c'est tout le génie napoléonien qui nous permet aujourd'hui d'avoir une France un peu structurée.
Vous êtes trop Louis Dragnel.
Et bien, voilà.
On le sent motivé.
Je trouve ça regrettable. Ouais.
Merci à tous les trois. Merci d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mercredi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h57, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le journal, toute l'info. Et puis le grand entretien ce soir avec Jean-Luc Mélenchon. On est mardi, non ? On est mercredi.
On est mercredi,
c'est bien ça, j'ai eu un doute tout d'un coup. Les grandes voix du mercredi, à tout de suite.